C'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie, j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bon midi à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Simard, qui a une expérience variée, notamment en design urbain et en urbanisme. Donc, Jean-Philippe est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques tout d'abord, puis d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Puis, ben c'était pas assez, donc Jean-Philippe a fait une autre maîtrise finalement en design urbain à l'École d'architecture de l'Université Laval. Donc, durant son parcours académique et professionnel, il s'est spécialisé en l'aménagement transitoire d'espaces publics. Pendant 5 ans, il a su parfaire son expérience en gestion et en conception de projets urbains en tant que responsable principal du bureau de la Pépinière, qui est l'espace collectif à Québec, et en tant que consultant à l'Atelier Blanc. Donc, toujours à la recherche de manières innovantes pour aborder le projet urbain, il s'est joint à Vivre en ville, où il met en valeur ses domaines d'expertise que sont la participation citoyenne, la morphologie urbaine et la conception soutenable de milieux de vie. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir à notre avant-dernière émission, en fait, de la saison.
Salut Catherine. Ben oui, ça fait plaisir d'être accueilli à ton émission.
Donc, en fait, pour nous mettre un peu en contexte, parce que là, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai parlé d'aménagement, de développement régional, développement urbain, tout ça, donc les projets auxquels tu as participé aussi avant, puis aussi Vivre en ville, là, qui est l'organisme pour lequel tu travailles maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton travail chez Vivre en ville, mais aussi des mandats sur lesquels tu travailles là, actuellement?
Ben oui, on pourrait peut-être commencer en définissant un peu c'est quoi le rôle d'un urbanisme, d'un urbaniste, dans la vie, là, en fait, l'urbaniste, puis ben moi, mon rôle, souvent, ben dans l'organisme avec lequel je travaille, puis dans mon quotidien, c'est de promouvoir finalement un urbanisme ou l'aménagement de nos villes. Un aménagement durable de nos villes, finalement. Là. Donc, c'est ma principale mission, là, je te dirais, avec l'organisme avec qui je travaille, qui est Vivre en ville. Donc, c'est un organisme non gouvernemental qui, justement, promouvoit les collectivités viables, donc c'est-à-dire où on promouvoit finalement l'aménagement de villes qui vont être durables et qui vont pouvoir être inclusives pour tous. Donc, qu'est-ce que ça fait un urbaniste au quotidien? On fait principalement des mandats et des accompagnements auprès des différentes municipalités au Québec pour justement accompagner les différentes équipes des différents services dans les municipalités pour pouvoir les amener à bien encadrer le développement de leur ville, mais peut-être aussi voir comment ils pourraient consolider, c'est-à-dire peut-être mieux aménager leur ville pour qu'il y ait moins à se développer ou qu'ils puissent se développer de manière plus intelligente ou de manière plus durable. Ça, on fait souvent appel au concept de faire la ville sur la ville, donc c'est-à-dire de consolider ce qu'on a déjà plutôt que de continuellement s'étaler sur le territoire. Donc s'assurer que nos périmètres urbains soit d'abord optimisé avant qu'on ait besoin de développer en dehors de ces périmètres-là. Donc ça, c'est la grosse mission qu'on a en tant qu'urbaniste chez Vivre en Ville, c'est de promouvoir justement la consolidation urbaine et la création de collectivités viables. C'est ça mon rôle au quotidien, donc accompagner nos municipalités, mais pas seulement nos municipalités, mais on a des mandats aussi avec des groupes citoyens tout dernièrement aussi avec des promoteurs, des développeurs immobiliers pour aussi les sensibiliser à la question de la consolidation urbaine et de l'aménagement durable de nos territoires.
Super intéressant. Puis Vivre en Ville, je comprends que c'est un organisme qui est à Québec même. Oui. Mais quand tu parles de municipalité, c'est que vous travaillez quand même avec différentes municipalités au travers le Québec.
Exactement. C'est un organisme qui n'est qui est pas en québécois. Donc, on travaille avec toutes les municipalités du Québec. Pas tous, mais on a la possibilité de travailler avec toutes les municipalités du Québec. Donc, la manière dont on fonctionne, ce sont souvent des projets qui sont financés par différents bailleurs de fonds, qu'ils soient au niveau du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral. Et puis, à partir de ces projets-là, on est souvent en mesure d'accompagner des municipalités. Donc, on a des mandats pour promouvoir finalement l'urbanisme durable puis l'aménagement durable du territoire à travers le Québec, à travers nos mandats, à travers nos projets de recherche et nos accompagnements avec certaines municipalités. Donc, on a souvent différents volets à nos projets. On a souvent un projet, dans un projet même, on va avoir un volet recherche, où on va vraiment aller fouiller une question urbanistique ou d'aménagement urbain. Ensuite, on va faire des accompagnements pour avoir vraiment un pouls très concret avec les municipalités sur les enjeux qu'on veut fouiller. Puis ensuite, on a un volet souvent de diffusion. Donc, on va souvent produire une publication, donner des conférences, faire de la formation sur le sujet qu'on va avoir creusé. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, ça portait sur les boulevards et les routes à vocation commerciale, donc ces grands boulevards qui sont justement souvent un peu délaissés, où on retrouve beaucoup de stationnements, où c'est difficile de se déplacer à vélo ou à pied. Comment repenser ces espaces-là pour qu'ils puissent participer finalement à nos milieux de vie, aux quartiers qui sont avoisinants, puis qu'ils puissent justement participer à la consolidation de la ville, participer aussi à son dynamisme. Donc ça, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Puis à partir de ce travail-là, de ce projet-là, on faisait de la recherche, on faisait des accompagnements de municipalités pour bien comprendre la réalité sur le terrain. Puis par la suite, on a produit une publication qui est maintenant tout nouvellement disponible sur notre site, et on a reçu cette semaine des copies papier aussi, là. Donc, c'est un peu le modus operandi chez Vivre en Ville pour plusieurs types de projets. On travaille sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de densification, sur les enjeux de santé et d'aménagement du territoire, qui c'est un peu le sujet de notre émission aujourd'hui.
Mais c'est super intéressant. Puis on va aller, je pense, visiter le site Internet. Là. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'infos aussi là-dessus, si on a davantage de questions sur le sujet. Tu en as parlé un petit peu, là, donc on s'intéresse davantage à la santé, là, disons, dans l'émission d'aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, là, d'urbanisme, surtout en ville. On entendait récemment que la plus grande menace à la santé humaine était les changements climatiques. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir faire face dans les prochaines années, puis ça va quand même déstabiliser un petit peu notre environnement, notre environnement qui soit justement l'environnement climatique, mais aussi notre environnement de travail ou de de vie, si on veut. Donc, la question justement d'une ville en santé est d'autant plus abordée en ce moment. Puis on parle aussi d'exode rural. Donc, avec la pandémie, on a vu ça un petit peu aller. Là, les maisons en ville étaient à vendre. Il y avait comme une désertation. Les gens avaient envie de se retrouver un petit peu plus en campagne, par exemple. Mais là, on reprend un petit peu notre beat actuel. Les gens reviennent un peu en ville, sont dépendants de leur voiture aussi. Donc, ça amène d'autres enjeux également. Puis toi, si tu as à décrire une ville en santé, bien, ce serait quoi justement les éléments qui seraient à prioriser ou qui sont primordiaux finalement dans cette atteinte-là de santé en ville?
C'est vraiment une bonne question. D'abord, je crois que pour pouvoir lutter pour contre ces changements climatiques, il faut s'occuper de nos villes. Puis la ville est la solution, selon nous, mais il faut s'en occuper, il faut prendre les moyens pour faire en sorte que la ville puisse être l'outil pour qu'on puisse être résilient face au changement climatique, qu'on puisse lutter, mais aussi qu'on puisse s'adapter, mais aussi lutter contre les changements climatiques. Il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que nos villes puissent devenir des environnements favorables à notre santé, puis qu'on puisse aussi par la suite devenir des collectivités qui soient plus résilientes finalement face au changement climatique, puis aux différents défis auxquels on va devoir faire face dans les prochaines années. Il y a deux grands principes transversaux là, qu'il faut garder en tête pour une ville qui serait en santé mettrait la santé d'abord. D'abord, il faut mettre l'équité au cœur de toutes les interventions. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on ait une offre résidentielle qui supporte une mixité sociale, qui a une absence de ségrégation résidentielle. On doit réduire le plus possible l'exposition au risque de nuisances. On doit répartir ces nuisances-là aussi répartir de manière équitable les ressources dans la ville. Donc, ça, c'est à une échelle peut-être un petit peu plus macro. Il faut mettre des dispositifs le plus possible en termes d'accessibilité universelle des infrastructures, ça, c'est-à-dire que tout le monde, peu importe les capacités physiques ou mentales, puisse accéder aux bâtiments, mais aussi aux espaces publics. Au parc, s'assurer finalement qu'on soit capable aussi de se mouvoir de manière équitable, c'est-à-dire qu'on va être capable de se déplacer dans la ville, peu importe notre statut social, nos revenus, mais aussi notre condition physique ou mentale. Donc ça, c'est le premier grand principe transversal, si on veut. Deuxième grand principe transversal, c'est s'assurer qu'on va être capable d'améliorer la résilience des collectivités. J'en ai un peu parlé au début de ma réponse, mais il faut s'assurer que les logements qu'on va créer, puis les logements qu'on va rénover dans les prochaines années soient adaptés au changement climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que nos rénovations puis nos bâtiments neufs vont intégrer des mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique au niveau des îlots de chaleur, au risque d'inondation, puis s'assurer que leur localisation, surtout sur le territoire, soit adéquate pour que on s'assure qu'ils ne soient pas inondés ou qu'ils soient pas ou qu'ils nuisent pas finalement au déploiement de certains écosystèmes qui vont peut-être s'assurer de nous aider dans les années futures. Finalement, garder des accès à des espaces de socialisation, de démocratie pour tous, s'assurer d'avoir des espaces, des équipements publics qui sont multifonctionnels aussi, puis qui vont être adaptables à travers les années, c'est-à-dire que si on crée du logement, par exemple, seulement pour les personnes âgées, parce que là, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de personnes âgées, la courbe de démographie va vers là, ben il faut s'assurer que ces logements-là puissent être éventuellement adaptés pour autre chose ou garder une certaine mixité dans le quartier pour s'assurer qu'on puisse qu'on ne crée pas seulement des quartiers monofonctionnels avec, par exemple, un seul type de personne ou dans nos villes. Avoir une diversité économique aussi. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est nos deux grands principes transversaux là, pour s'assurer d'avoir une ville en santé. Donc mettre l'équité au cœur de toutes nos interventions qu'on va faire dans la ville, puis s'assurer d'améliorer la résilience de ces collectivités-là. Après ça, on a plein de principes plus spécifiques pour y arriver. Donc le premier qui est le plus important pour avoir une ville en santé, c'est d'optimiser l'utilisation du sol. Donc, il faut stopper finalement l'étalement urbain. Donc, il faut éventuellement se tourner vers des milieux qui vont être plus denses, qui vont être consolidés, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir optimiser au maximum nos périmètres d'urbanisation qui sont existants et aussi nos services puis nos équipements qui sont existants, les infrastructures aussi. S'assurer qu'ils soient optimisés à leur plein potentiel. Donc ça, c'est super important. Deuxième grand principe spécifique, c'est mettre en valeur, bien sûr, nos milieux naturels puis nos territoires agricoles. Donc, bien sûr, lorsqu'on vient optimiser l'utilisation du sol dans nos périmètres d'urbanisation, bien, on s'assure par la suite de mettre en valeur tous nos milieux naturels, nos écosystèmes puis nos terres agricoles qui sont à l'extérieur de ces périmètres d'urbanisation-là. Puis aussi s'assurer que même à travers nos milieux urbains, il y a de la place pour ces milieux naturels-là. Donc, ça, c'est souvent, il y a souvent une chaude lutte à faire entre est-ce qu'on doit préserver un espace public ou un certain milieu naturel dans un milieu urbanisé. Il faut voir, puis ça, c'est le travail de l'urbaniste. On travaille souvent à plusieurs échelles, souvent à l'échelle de la région, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, puis à l'échelle de la rue même, puis même jusqu'à l'échelle du bâtiment. Mais c'est vraiment de s'assurer que est-ce que ce milieu naturel-là a des capacités intéressantes ou a des valeurs intéressantes à la fois à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle régionale. Donc là, c'est comme l'arbitrage qu'on peut faire.
Est-ce que c'est un peu comme tu mentionnes que tu veux, par exemple, que on optimise au maximum l'espace qui nous est alloué en ville pour être plus efficient, si on veut, par exemple, par rapport à la façon de loger les gens. Mais si j'ai un gros parc qui est au milieu de tout ça, ben je voudrais quand même le préserver. Fait que c'est de trouver le juste milieu entre je laisse un espace, c'est vide, mais en même temps, j'essaie de condenser ma ville pour que ce soit plus efficient.
Exact. Ben, tu sais, il y a plusieurs moyens de faire cette densification-là en gardant, en créant des milieux de vie qui sont intéressants puis qui sont bien aménagés. Puis ça se fait de différentes manières. Puis, tu sais, on a dans nos villes, dans nos périmètres d'urbanisation, c'est super important de garder plusieurs espaces verts, s'assurer qu'ils soient bien aménagés, qu'ils soient bien connectés, puis que les gens puissent y avoir accès. Mais souvent, il y a un arbitrage à faire, justement, à savoir il y a souvent le bon vieux débat qui ressort souvent ces temps-ci, c'est la préservation ou non des golfs qui souvent sont des espaces verts mais privés, puis qui maintenant sont souvent peut-être un petit peu moins utilisés ou les promoteurs veulent les vendre. Puis là, ben est-ce qu'on doit densifier ces espaces-là ou les garder en espace naturel? Puis je vous dirais que c'est une position ça dépend de la localisation de ces espaces-là, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment bien localisés au sein de la municipalité ou ils sont près des services, qui sont près de quartiers résidentiels ou qui sont près aussi de commerce ou du cœur de quartier ou du cœur du village ou du cœur de la ville, ce serait quand même intéressant qu'on puisse... Puis ici, on sait qu'il y a une pression démographique dans cette municipalité-là pour... pour accueillir plus de ménages, ben peut-être que cet endroit-là est plus intéressant et plus adéquat pour recevoir du logement que de préserver un espace vert qui serait vide. Mais il y a toujours moyen souvent de faire les deux. Donc, par exemple, sur un espace naturel en milieu urbanisé, on peut en prendre une partie s'il est vraiment là, un endroit très, très, très... à un prime spot là, de la ville où on est vraiment près des services, près des commerces, venir vraiment consolider la ville, ben il y a souvent moyen de, par le biais d'écoquartiers, par le biais de différentes mesures d'intégration des bâtiments résidentiels, de garder des espaces publics et des espaces verts à travers un développement qui peut être vraiment super intéressant, tout en conservant des milieux naturels. Donc, tu sais, il y a souvent un arbitrage à faire, puis la vertu se retrouve souvent là, au centre, finalement. Là. Donc, la bonne réponse est un peu dans l'équilibre entre les deux. Ça, c'est pour la question des espaces naturels. Là.
Mais oui, puis un peu comme en santé, en général, il n'y a pas de blanc ou de noir. Là, donc, il faut toujours analyser le problème qui est devant soi, qui est différent à chaque fois. Puis prendre la meilleure décision pour ces milieux-là là, et ou en comparaison au patient là, qui est devant nous. Tu sais, je peux pas penser à la santé d'une ville sans penser justement à la mobilité durable. Mm-hmm. Notamment, en ce moment, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du troisième lien. Puis, tu sais, on peut se demander justement si cette initiative-là est réellement la solution au problème actuel d'achalandage sur nos routes et de trafic. Puis en effet, là, quand on regarde certaines données de la SAAC, on voit qu'en 2000 et 2017, le nombre de véhicules de promenade a cru de 40 %, ce qui est quand même énorme. Puis là, c'est en 2017. Donc, on peut penser que ça continue d'augmenter là, depuis ce temps-là. Puis on peut comprendre l'intérêt potentiellement de vouloir augmenter un peu la force du réseau routier en ajoutant, par exemple, un troisième lien. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une façon de contourner le problème puis d'ajouter à la dépendance un peu sournoise ce qu'on a envers la voiture?
Mm-hmm. C'est une très bonne question. Puis, tu sais, en fait, toujours pour faire pour s'assurer que la ville puisse être en santé puis puisse aussi être un outil pour que les humains qui y habitent puissent être en santé, ben il faut favoriser l'essor de la mobilité durable. Puis la question du troisième lien, en fait, pour arriver à favoriser cette mobilité durable-là, souvent, il faut faire ce qu'on appelle un arrimage entre les activités et les infrastructures de mobilité collective et de mobilité active. Donc, s'assurer que nos différentes activités, nos différentes infrastructures, nos services, nos pôles d'activité, les endroits où on va se déplacer puissent être accessibles en mode actif puis en mode collectif. Puis ben le projet du troisième lien en ce moment malheureusement, tu sais, c'est vraiment un projet qui va un peu à l'encontre du processus de changement modal qu'on a besoin de faire pour pouvoir arriver à cet objectif-là, justement, de créer une mobilité qui est beaucoup plus axée sur les transports actifs puis sur les transports collectifs. Là. Donc, ça se base sur un principe qui est assez simple, qui est la demande induite. Là. Donc, lorsqu'on ajoute des liens pour le transport en automobile, c'est-à-dire que le transport en voiture, ben plus on en ajoute, plus on va on favorise ce mode de transport-là. C'est-à-dire que plus on va rajouter de routes, plus il va y avoir de voitures pour l'utiliser, puis plus il va y avoir d'utilisateurs parce que c'est le mode de transport pour se rendre à nos infrastructures, à nos pôles de service qui est favorisé. Donc, ça va carrément ça, c'est d'un point de vue mobilité, là, donc vraiment, c'est juste tout simplement de favoriser la voiture par rapport aux autres modes. Donc, on fait reculer encore une fois de plusieurs années si on crée ce projet-là. La volonté, mais aussi tout le changement de part modale qu'on doit faire pour pouvoir faire le switch vers des mobilités plus douces, des mobilités actives, des mobilités collectives qui vont avoir un impact sur nos collectivités pour faire la lutte au changement climatique puis réduire nos GES. Puis en plus, ben, dans le cas de Québec, c'est une infrastructure qui est non justifiée parce qu'on est déjà une des villes qui a le plus d'autoroutes par tête de pipe dans toute l'Amérique du Nord.
Donc, oui, ça,
c'est super, c'est super intéressant. Là. Donc, c'est une des villes qui a le plus de kilomètres d'autoroute dans toute l'Amérique du Nord. Si on prend par le nombre de populations par le nombre de kilomètres d'autoroute. Donc, c'est une infrastructure qui n'est pas justifiée selon moi pour l'achalandage qu'on vise là, dans notre ville. Puis ben il y a plusieurs effets collatéraux à ce genre d'aménagement, à ce genre de projet-là. Je vous parlais d'étalement urbain, donc il faut éviter à tout prix l'étalement urbain si on veut créer une ville en santé. Ben créer un nouveau lien, c'est malheureusement un gage d'étalement urbain ailleurs. Donc, c'est des collectivités, donc des municipalités sur la rive sud qui vont bénéficier de ce nouveau lien-là et qui vont pouvoir faire un développement économique, un développement résidentiel, un développement de différents pôles de services qui vont pouvoir éventuellement être utilisés. Puis qui vont naturellement se développer. Là. Donc, lorsqu'on crée un lien, on crée aussi une offre, puis ça fait en sorte qu'on va développer d'autres milieux qui sont en ce moment dans des terres agricoles.
Mm-hmm. Qui est un peu ambitieux ici en ce moment, là, parce que, je veux dire, tu parlais tantôt que ce que je ne savais pas, là, qu'à Québec, on était l'endroit qui avait plus d'autoroutes par habitant, mais si on a fait que on est quand même une ville donc dispersée, puis avec Lévis aussi qui est de plus en plus dispersée, puis les deux veulent communiquer ensemble, bien, ça fait que les gens vont de plus en plus loin, mais ils veulent quand même revenir beaucoup. Donc, si on leur offre cette possibilité-là, bien, c'est sûr que ça devient un choix facile à prendre, disons.
Exact.
Donc, Jean-Philippe, merci, ça va vite quand même. On pourrait, je pense, en parler encore dans au moins 2-3 autres émissions. Mais juste pour terminer rapidement, tu sais, on parlait de la dépendance à la voiture, puis comment justement cette dépendance-là, elle est sournoisement dans notre quotidien, dans le sens qu'on n'ose pas le dire là, qu'on est dépendant à la voiture, mais je pense qu'on l'est tous un peu. Puis, tu sais, on pense aussi, entre autres, à l'espace que peut occuper les stationnements dans une ville. Puis, on se pose pas cette question-là. On dirait que c'est normal qu'il y ait autant de béton qui soit, dans le fond, disponible ou accessible seulement pour venir stationner une voiture. Donc, c'est un peu un non-sens.
Exact. Bien, pour la question, tu sais, vraiment, tu sais, l'espace que la voiture prend dans nos vies puis dans nos villes, finalement, là, c'est vraiment une très bonne question. Puis, finalement, ça prend énormément de place. Donc, tu sais, il faut prendre en compte que, tu sais, un stationnement dans un milieu urbanisé, là, ça prend énormément de place, que l'on parle de nos rues principales, que l'on parle de nos quartiers résidentiels. C'est tout plein d'endroits qui pourraient être utilisés de manière beaucoup plus optimale et qui pourraient être utilisés justement soit pour nous loger, soit pour créer des espaces publics, soit pour créer des aménagements qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir s'y rendre à vélo, qu'on va pouvoir s'y rendre à la marche. En ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos moyens de nous déplacer sont intimement liés avec l'aménagement qu'on va faire de nos villes. Puis ça, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est lorsqu'on va être en mesure d'aménager nos villes sans l'automobile, on n'en aura plus besoin et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de créer des environnements qui vont être mixtes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à la fois des lieux pour habiter, mais aussi consommer, donc aller avoir des commerces, avoir des services, avoir tout ce qu'on a besoin à distance de marche ou à distance de vélo. Donc ça va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'utiliser notre voiture à tous les jours et on va pouvoir éventuellement réduire la place du stationnement dans nos environnements immédiats. Ça, c'est une des principales solutions. En fait, c'est certain que notre dépendance à la voiture, c'est encore un sujet qui est malheureusement très, très, très d'actualité encore en 2021, mais il y a beaucoup, beaucoup d'évolution qui se fait. Puis je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, mais moi, je suis très optimiste. On peut faire les changements. Puis on peut y arriver, puis la ville est la solution pour vrai, il faut juste s'y mettre. Puis je pense qu'on a beaucoup des outils sont déjà présents dans nos villes, il faut juste souvent les ressortir ou mieux les mettre en valeur. Donc, je finirai là-dessus.
Bien, merci. Puis en tout cas, si jamais tu te présentes en politique, on va savoir déjà un peu pour qui voter. Puis on te réinvitera assurément.
Parfait. Ben ouais, merci Catherine.
Bye.
Salut.
Cette émission est une initiative du Comité Spot de l'Université Laval affilié à la Clinique Spot. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés